Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serov.
Donc vous êtes une montpelliéraine pur jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Boudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. La qualité de notre alimentation, la capacité des agriculteurs à assurer à la fois la pérennité de leur activité, la réponse aux attentes des consommateurs et aussi à contribuer à la préservation des ressources de la planète, voilà autant de questions majeures à notre époque, dans notre société. Aujourd'hui, nous allons les aborder sous l'angle des politiques publiques, de l'action des gouvernements et plus généralement de la démocratie. Pour que nous y voyions plus clair sur ces sujets aussi passionnants que complexes, j'ai invité Ève Fouilleux. Madame, merci d'être venue au micro de Divergence. Vous participez aux travaux de deux des grands lieux de recherche à Montpellier, le CNRS et le CIRAD. En effet, vous êtes directrice de recherche au CNRS en sciences politiques, on verra sur quoi, et vous êtes aussi chercheuse associée au CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Alors, première question pour mieux vous connaître, pourquoi avez-vous choisi d'être chercheuse, imagine, au moment du début de vos études, et pourquoi plus précisément le sujet que vous travaillez depuis plusieurs années dont nous allons parler?
Alors, en fait, je n'étais pas destinée à la recherche au départ. J'ai été formée comme ingénieur agronome et plus exactement comme agroéconomiste. Et je m'intéressais déjà...
C'est ça, vous étiez quand même dans ce regard...
Je m'intéressais en fait aux questions déjà de transition écologique de l'agriculture. Ce n'était pas très à la mode à l'époque, mais ça me touchait beaucoup.
Il y a quelques années donc déjà.
Il y a une bonne paire d'années, oui. D'accord. C'était à la fin des années 80, au début des années 90. Et donc j'ai été formée comme agroéconomiste et je voulais comprendre les enjeux technique et économique autour de l'agriculture, et je me suis rendu compte en fait que avec les outils de la technique, de l'ingénieur agronome ou de l'économie, on pouvait pas tout comprendre, et que pour bien comprendre ce qui se passait, il fallait comprendre les enjeux politiques, et c'est comme ça que je me suis tournée vers les sciences politiques.
Les systèmes.
Oui, en tout cas les rapports de force entre les acteurs, et c'est ça qui fait l'objet de mon travail autour de comprendre cette transition écologique de l'agriculture et de l'alimentation.
Alors rapports de force entre les acteurs, bien entendu, on va en parler tout à l'heure. De différentes manières. Alors, comme vous le savez, avant que vous nous parliez de vos travaux et que vous nous proposiez votre analyse, racontez-nous d'abord votre Montpellier, à votre tour d'apporter votre part au portrait de notre ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Quel est donc le lieu d'ici que vous appréciez particulièrement et que vous recommandez à vos amis de passage?
Alors, le lieu que j'apprécie particulièrement, c'est les rives du Lez à La Valette. Ouais. C'est juste à côté de mon travail. Je ne sais pas si j'enverrai des touristes.
L'autre rive du Lez, là-haut. Voilà,
oui. En bas du zoo du Lunaret. Et il y a les rives du Lez. On peut cheminer le long du Lez. Et c'est vraiment très champêtre. On se croit au milieu de nulle part. Il y a des cascades. C'est vraiment féerique et très dépaysant. On se croirait vraiment pas si proche du centre-ville, en tout cas.
Et pas au milieu de la métropole, en tout cas.
Non, et c'est vraiment très charmant, donc je conseille tous les Montpelliérains d'aller y faire un tour.
C'est fréquenté surtout à la belle saison. Oui. Certains s'y baignent, c'est interdit. D'autres y pique-niquent ou plus. Oui. Mais c'est vraiment un lieu très intéressant. Alors passons maintenant aux politiques publiques sur l'agriculture, l'alimentation et la transition écologique. Alors d'abord, pour commencer, là, qu'on comprenne un peu la logique, le raisonnement dans lequel vous êtes installé, quels sont les traits saillants de votre analyse des politiques publiques actuelles de l'alimentation, que nous verrons ensuite un peu plus en détail?
Alors, le principal trait, c'est que les politiques alimentaires actuellement, elles sont surtout orientées par la politique agricole. Et la politique agricole, elle est surtout orientée vers une approche très productiviste. Il faut produire toujours plus, avec des rendements toujours plus élevés. Et malheureusement, ça se fait au détriment de la santé publique et de l'état des écosystèmes. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on n'arrive pas à changer de système, puisque les citoyens de plus en plus nombreux veulent changer ce système-là. Mais il y a des verrous, à la fois politiques, économiques, qu'il faut comprendre.
Donc, on est quand même dans une vision de l'agriculture qui date encore d'après-guerre, des années 50, Edgar Pisani, grand ministre de l'Agriculture. Il paraît qu'il a regretté d'avoir poussé les feux du productivisme au moment où il était à la retraite. En tout cas, voilà, cette grande ligne de force, qui vaut d'ailleurs pour les politiques agricoles européennes, elle explique ce qu'on voit maintenant de manière plus fine. Alors, au fil des années et des décennies, ces politiques ont évolué. Donc, on a en tête notamment l'épisode de la vache folle, avec toujours dans ce contexte-là de productivisme affiché et affirmé.
Oui, alors je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, les politiques agricoles et alimentaires actuelles, elles ont leurs racines au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, avec la mise en place en même temps des politiques dites de modernisation de l'agriculture française, la politique dite des structures, qui était effectivement portée par le gouvernement de Gaulle et par le ministre Pisani, qui étaient toutes ces politiques de remembrement, faire sortir le plus possible de gens de l'agriculture pour ne garder que les agriculteurs formés, performants, efficaces. Donc une certaine vision de la modernisation, mécanisation.
Financement par le Crédit Agricole, etc.
Voilà, investissement très fort et endettement des agriculteurs de plus en plus fort. À la sortie de la guerre, on était autour de 6%, maintenant on est autour de 50%. Donc vraiment, on construit un modèle particulier d'agriculture avec mécanisation, utilisation de produits chimiques, donc engrais de synthèse, pesticides et semences améliorées, donc toute la génétique. Bon, donc ça, c'est la mise en place de cette politique des structures qui a été portée aussi en même temps au niveau européen avec la mise en place de la fameuse politique agricole commune, avec une approche à l'époque très protectionniste. On n'était pas encore dans le système ultralibéral actuel.
La défense des frontières et les tarifs douaniers étaient fondés là-dessus,
c'était de mettre en commun, de faire du commerce international entre quelques pays de l'Union, de la communauté européenne à l'époque, et de protéger nos frontières des grands pays exportateurs comme les États-Unis ou les pays d'Amérique du Sud. Et donc on avait des droits de douane aux frontières et on protégeait le marché. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à libéraliser seulement à l'échelle européenne. Et puis ensuite, après, dans les années 90, on a libéralisé beaucoup plus parce qu'on avait des enjeux de négociation, notamment avec les Américains, avec d'autres pays du monde. Et on a mélangé la négociation sur les questions agricoles avec celle sur les questions industrielles. Et bon, on a un peu liquidé notre approche de l'agriculture protectionniste.
Ah oui, elle est passée un peu au second rang.
Voilà, on avait envie de continuer de vendre des Airbus, notamment. Bon. Et donc ça, c'est l'approche historique des politiques agricoles. Et à côté de ça, donc c'est vraiment ce qui continue de fonder le modèle agricole tel qu'il est promu actuellement par les politiques publiques. Mais à côté de ça, il y a des politiques alimentaires qui se sont développées, d'abord autour des enjeux sanitaires. Donc, comme on industrialisait, on commençait à traiter des gros volumes de produits dans les industries. Donc, il fallait s'assurer qu'il y ait le moins possible de problèmes sanitaires. Donc vous l'avez mentionné avec la vache folle, il y en a quand même eu de très importants, puisque la vache folle, c'est quand même l'idée de nourrir des animaux avec des farines animales, qui n'était pas très logique de nourrir des vaches avec des farines animales. Et on est arrivé avec la création, le prion, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, et donc un grand problème. Mais ce n'est pas la seule crise sanitaire qu'il y a eu, il y en a plein d'autres avec des pesticides, etc. Mais bon, on a mis en place quand même des procédures sanitaire.
Avec des dispositifs et des outils associés à ces procédures
C'est les dispositifs, on ne va pas rentrer dans les détails, je ne pense pas que ça va passionner les auditeurs, mais l'idée c'était de séparer le contrôle de l'efficacité des politiques, de la fabrication des politiques. Donc la mise en place d'agences comme l'Agence européenne de sécurité sanitaire des aliments ou l'Agence française qui est actuellement l'ANSES. Mais peut-être plus en lien direct avec les enjeux alimentaires qui sont en débat actuellement, les politiques. Ensuite, on a eu des politiques de la qualité alimentaire. Et puis, donc là, c'était l'idée de mettre en place des labels pour distinguer certains produits et que les consommateurs qui ne voulaient pas manger du tout venant puissent avoir des produits différents. Ouais. Donc, label rouge, donc indications géographiques, les appellations d'origine contrôlée, tout ça, sur les vins, par exemple. Et puis ensuite, dans les années 80, l'agriculture biologique, où là, déjà, on commence à responsabiliser le consommateur. S'il veut manger mieux, entre guillemets, eh bien, il doit payer plus et choisir son produit comme ça. Donc ça, c'est la politique
de la qualité. Le logo, le label AB sur l'emballage, mais ça a une conséquence, on le sait bien, sur les prix. Et puis, il y a le Nutri-Score récemment.
Alors ça, c'est la troisième phase des politiques alimentaires où on commence à se dire, Il y a un lien entre la santé et l'alimentation. On commence à voir l'obésité qui augmente, le surpoids, les maladies cardiovasculaires, le diabète. Et là, notamment, les professions médicales se sont dit, il faut s'activer un peu sur les... Alors, on mange mal, on mange trop gras.
Ça paraît étonnant aujourd'hui que cette question-là ait mis du temps à émerger, être reconnue comme telle. Comme, peut-être, est-ce qu'il y avait l'idée que par définition, ce que pour disent les agriculteurs, c'est sain, c'est bon, c'est peut-être ça, c'est une idée fausse. Et du coup, peu à peu, bon, je veux dire, voilà, les chercheurs...
C'est seulement à partir du tout début des années 2000, ouais, qu'on met en place le fameux PNNS, c'est le Programme National Nutrition Santé, où là, on essaye d'éduquer le consommateur à manger mieux. On sait qu'on mange trop gras, trop salé, trop sucré, et que ça provoque des maladies qui explosent. On les appelle les maladies non transmissibles liées à l'alimentation. Et donc, on a mis en place ce PNNS. Ce PNNS, il est aussi, c'est l'idée de responsabiliser le consommateur individuel. En lui disant, en se disant, si les consommateurs sont malades, c'est qu'ils mangent mal et c'est de leur faute, il faut mieux les éduquer pour qu'ils mangent mieux. Donc c'est une façon particulière.
Alors justement, ça c'est un point important qui a attiré mon attention, on l'avait évoqué en préparant l'émission. Responsabilité individuelle des consommateurs plutôt que celle des agriculteurs et des industriels, c'est-à-dire les autres acteurs. Un phénomène, d'ailleurs, on le sait bien, semblable à celui qu'on assiste pour les politiques de transition écologique. On leur dit « changez votre façon de vivre et tout ira bien ». Qu'est-ce qui vous permet d'être aussi affirmative sur ce point-là là ? Quels sont les éléments constitutifs de ce phénomène « bougez-vous, consommateurs » que vous avez analysé avec d'autres chercheurs et qui me semble quand même déterminant pour comprendre la situation actuelle, parce que ce phénomène n'a pas disparu.
Mais ce qui est intéressant, c'est par exemple de regarder les budgets qui sont alloués à ces politiques publiques. Si les campagnes du PNNS, donc c'est, comme vous l'avez dit, manger, bouger, vous mangez 4 fruits et légumes par jour, c'est des campagnes où on met en fait assez peu d'argent, qui coûtent assez peu cher. C'est 1 million d'euros par an, enfin en tout cas en 2021, j'ai calculé pour 2021 dans une étude qu'on a fait récemment, c'est 1 million d'euros par an.
C'est le coût de la communication.
C'est rien du tout en fait, ouais, parce que combien on verse à votre avis au système alimentaire dans sa globalité par an ? On verse 50 milliards.
D'accord.
Et sur ces 50 milliards, donc il y en a 1 million qui sont utilisés pour mieux éduquer le consommateur, et il y a 30 milliards qui sont versés...
C'est un rapport de 1 à 50 000, si je sais bien.
C'est beaucoup, ça fait moins de 0,1%, enfin 0,01% pour l'information du consommateur. Et même, on peut aussi comparer, par exemple, au budget qui sont dépensés par les industriels. Quand je dis industriels, j'entends les industriels de la transformation alimentaire, la grande surface ou la restauration commerciale. Ils dépensent en millions d'euros 5 537 millions d'euros cette même année 2021. Donc ils ont 5 537 fois plus de moyens pour aller parler au consommateur et pas lui donner les mêmes conseils, évidemment, que manger 5 fruits et légumes par jour. Donc voilà, c'est des éléments un peu qui permettent d'avoir une idée des leviers, des rapports de force qu'il y a autour de ces instruments de politique publique.
Une disproportion énorme qui perdure pour le coup. Alors, on a regardé un peu quel était ce paysage-là, donc si on peut le revoir. Quelle est la place et le poids respectif donc, de l'État, le gouvernement, les politiques publiques, les représentants des agriculteurs, leurs syndicats, les chambres d'agriculture, les industriels que vous avez évoqués et bien sûr les consommateurs dans ce jeu ou cet affrontement d'acteurs ou cette divergence d'intérêts que vous avez commencé à décrire, quelle est la situation, qu'on comprenne bien contexte nous sommes.
C'est important de se poser la question de, ok, on a des politiques publiques qui ne sont pas très justes, a priori, ou pas très, en tout cas pas très orientées vers la transition agroécologique, pourquoi ? Eh bien parce que derrière, il faut se dire comment elles sont fabriquées, ces politiques publiques, par qui elles sont décidées. Et en fait, en France, elles sont décidées dans ce qu'on appelle la co-gestion. La co-gestion, ça veut dire, c'est un face-à-face entre le ministère de l'Agriculture, d'un côté, et les syndicats dominants de l'agriculture, FNSEA et Jeunes Agriculteurs, d'un côté.
Jeunes Agriculteurs, c'est la petite chambre de la FNSEA.
C'est le syndicat jeune de la FNSEA. Et puis, on peut ajouter la coopération agricole, et le Crédit Agricole et la MSA. Bon, en gros, ça, c'est alors, la...
Le Crédit Agricole, c'est la Sécurité sociale du secteur agricole.
Voilà, mais
donc, il y a ces grands...
C'est des grands organismes, mais ouais. Ils sont surtout représentés par la FNSEA, et donc qui en fait, discutent avec le ministère de l'Agriculture sans prendre en compte plein d'autres visions. Du côté de l'État, il y a beaucoup d'acteurs qui appellent à une ouverture beaucoup plus interministérielle, beaucoup plus transversale de ces questions-là, avec l'intégration du ministère de la Santé, du ministère de l'Environnement, du ministère des Affaires Sociales, qui sont des ministères qui sont tout à fait légitimes pour discuter de ces questions-là et qui sont très peu associés à la décision. Ils sont à peine consultés. De l'autre côté, il y a plein d'organisations de la société civile qui ont développé une expertise très forte sur les questions agricoles et alimentaires, que ce soit des organisations d'environnement, des organisations de consommateurs, des organisations qui s'occupent de précarité alimentaire, qui essayent d'aider les gens qui sont dans la précarité alimentaire. En France, il y en a 8 millions de Français qui sont en situation d'insécurité alimentaire. C'est beaucoup. Il y a beaucoup d'associations qui connaissent ces questions-là. On peut penser aussi à d'autres types d'acteurs politiques comme les collectivités territoriales. Il y a beaucoup d'acteurs qui pourraient être avantageusement associés aux discussions, mais qui ne le sont pas parce que le rapport de force fait qu'ils ne sont pas. Puisque...
Alors, je reviens un peu en arrière pour illustrer le phénomène que vous avez décrit, à savoir, entre guillemets, la co-gestion et donc le poids déterminant que la FNSEA a dans ces questions-là, on le voit sans arrêt, quoi. C'est-à-dire les agriculteurs, ils montent au Grénon, la FNSEA maintenant suivie par la coordination rurale, et ils obtiennent en grande partie gain de cause, quoi, aux dépens d'autres enjeux, notamment des enjeux de santé publique tels que vous les avez évoqués, quoi. Alors, ce phénomène, on a une illustration avec la loi Duplomb, qui l'an dernier a été en grande partie écartée, pas complètement, mais écartée. Bon, à la faveur notamment d'une pétition lancée par une étudiante, il faut rappeler son nom, Eleanor Paterine, pour la santé, la sécurité et l'intelligence collective, 2,5 millions de signatures, et voilà que notre sénateur Duplomb remet ça et dépose une nouvelle proposition de loi pour introduire l'acétamipride, un insecticide de la famille des nicotinoïdes, dont on sait maintenant qu'ils sont toxiques. Donc,
ouais.
Et c'est bien ce rapport, parce que bon, il y a un ancien responsable de la FNSEA de son département, et donc on voit quels sont ses repères professionnels et idéologiques, c'est bien cet état de fait quand même qui structure, je dirais, le paysage actuel touchant à l'alimentation.
Voilà, la loi Duplomb, c'est une belle illustration des résultats de la co-gestion. Mais je me permets de rectifier, la loi Duplomb, elle a été totalement acceptée, sauf sur une disposition qui était la réintroduction de ces deux néonicotinoïdes que M. Duplomb veut réintroduire maintenant.
Parce que le reste,
c'est important de souligner.
Etc., bon, tout ça,
les mégabassines, c'est passé. L'augmentation... on a cassé les seuils de déclaration environnementale pour les installations d'élevage. C'est-à-dire qu'on autorise des méga-élevages de 80 000 poulets, des milliers de bovins. En plus des structures agricoles qui concernent une toute petite... partie des agriculteurs, c'est pas du tout la volonté des paysans.
Est-ce qu'on peut dire que c'est en gros pour le coup l'agro-industrie qui l'emporte sur l'agriculture familiale?
C'est l'agro-industrie qui l'emporte sur l'agriculture familiale, sur l'agriculture biologique, sur des approches beaucoup plus humanistes, disons, de l'agriculture ou humaine, à échelle humaine.
Alors et, ça aussi, et ça casse l'idée qu'on a. Bon, comme on a l'idée, je dis, du pavillon avec un jardin quand on habite en collectif. L'idée de la ferme sympathique, celle qu'on a dessinée à l'école primaire, elle ne correspond pas à une grande partie
de la
réalité.
Elle n'existe presque plus. Mais on pourrait effectivement orienter les milliards d'euros de subventions qu'on verse à l'agriculture chaque année. Hein, c'est environ 16 milliards d'euros qui sont versés sous forme de subventions aux agriculteurs. Elles sont orientées vers les plus gros, les plus polluants. On changerait un peu la façon de distribuer ces aides, c'est un choix politique. On pourrait à nouveau favoriser une agriculture beaucoup plus respectueuse du vivant et respectueuse aussi des êtres humains.
Donc ça veut dire que l'agroécologie, à part peut-être quelques discours de tribune, elle n'a pas la place qu'elle pourrait avoir.
Non, l'agroécologie, il faut être très clair, c'est moins de 3% des dépenses agricoles chaque année en France. C'est très très peu et on n'est vraiment pas dans les orientations actuelles, on ne va vraiment pas dans cette direction, non. On a quelques petites mesures qui permettent marginalement de soutenir quelques agriculteurs pour faire ça. C'est en particulier principalement l'agriculture biologique, mais c'est vraiment pas du tout la majorité. Et si on peut comparer ce qui se passe en France, on n'a pas d'aide pour l'agriculture biologique, on fait reposer ça que sur le choix des consommateurs. Donc si les consommateurs n'ont pas le pouvoir d'achat, eh bien l'agriculture biologique ne se développera pas. C'est ce qui se passe actuellement. Voilà.
Stagne, oui.
Ça stagne parce que les gens, avec la crise Ukraine, etc., n'ont plus le pouvoir d'achat. Et donc, et comme on ne veut pas verser de subventions à l'agriculture biologique en France, ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Allemagne ou en Italie, en France, on a moins 30% de subventions pour les agriculteurs biologiques par rapport aux conventionnels, tandis qu'en Allemagne, on est à plus 50%. C'est-à-dire qu'on... en Italie, c'est pareil. On récompense, entre guillemets, les agriculteurs biologiques qui permettent de protéger la santé publique et la santé des écosystèmes, la santé de la planète. Et donc, on les récompense en leur donnant plus proportionnellement de subventions. En France, on leur donne moins.
J'imagine, une partie des produits allemands et italiens viennent en France en concurrence avec la production française.
Sans doute, en partie, oui.
Alors... Dans votre approche, dans votre analyse de la situation, bien sûr, vous l'avez dit, il y a quelle place les acteurs, les uns et les autres ont réellement, et donc vous développez l'idée, bon, vous n'êtes pas la seule, de démocratie alimentaire. Cette question de démocratie appliquée à ce secteur, me semble-t-il, relativement nouvelle. Alors, quelles sont les conditions qui seraient à réunir? Vous avez commencé à les évoquer pour que cette démocratie alimentaire, notamment pour que les consommateurs aient leur place autour de la table, pas seulement la table pour déjeuner, mais la table des discussions, et donc pèsent de leur poids.
Les consommateurs et les citoyens, plus généralement, parce que les consommateurs, on peut, il faudrait pas penser que c'est qu'une question de prix.
Oui, c'est pas une question de client, quoi, ou d'acheteur.
Voilà, prix, c'est aussi une question de vision, de c'est quoi le rôle social, le rôle politique qu'on donne à l'agriculture en France, et comment, quelle alimentation on veut, de quelle qualité, de quel type d'alimentation. Est-ce qu'on veut manger tous les jours dans une grande chaîne de distribution de restauration rapide, ou est-ce qu'on veut avoir, à proche de chez soi, des magasins qui permettent d'avoir, par exemple, des produits frais, de bonne qualité, sans pesticides, à un prix abordable pour tout un chacun. C'est vraiment ça, le débat politique autour des questions alimentaires. Donc, ça renvoie d'une part au niveau national à cette histoire de congestion, à cette histoire de changer cette façon de faire et d'ouvrir à la fois à des ministères différents et du côté des organisations de la société civile, c'est-à-dire de qui on consulte pour décider au niveau gouvernemental. Ça, il faut ouvrir à d'autres associations. Mais c'est aussi, par exemple, faire confiance aux collectivités territoriales. Les collectivités territoriales, elles sont un lieu important de déroulement de cette démocratie alimentaire. Et on a un petit instrument très marginal dans les politiques alimentaires actuellement qui s'appelle les projets alimentaires territoriaux et qui sont arrivés...
Ouais, c'est assez récent.
C'est 2014. Ils sont arrivés un peu par hasard au cours d'une discussion à l'Assemblée. Ils n'étaient pas du tout prévus dans la loi d'orientation de 2014.
Et puis,
il y a eu une députée qui était là, qui a réussi à faire passer ces trois lignes qui... disait simplement que les citoyens au niveau territorial peuvent s'emparer des questions alimentaires et proposer des projets pour développer des projets alimentaires et notamment pour soutenir l'agriculture biologique. Donc c'était trois lignes dans la loi et en fait ça a eu un succès fou, cette histoire, et aujourd'hui
de la société civile,
du côté à la fois des collectivités territoriales et puis des associations d'organisations de citoyens sur le terrain. Et bon, maintenant, ça fait une dizaine d'années que ça existe, et ça s'est beaucoup plus institutionnalisé, c'est-à-dire que les collectivités territoriales s'en sont saisies, elles développent des projets sur le terrain autour de...
Oui, fait partie des villes
notamment
qui sont dans le programme qui s'appelle Terre et...
Non, ça s'appelle les projets alimentaires territoriaux, et il y a notamment une association de collectivités territoriales qui s'appelle Terres en Ville qui est impliquée dans ces projets. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, on va au niveau local se saisir de ces questions alimentaires. On va arrêter de simplement déléguer ça au niveau national et au niveau européen. Et donc, au niveau local, on va jouer sur quoi ? Il y a peu de leviers, en fait, au niveau local. Il y a le foncier, Est-ce qu'une ville a du foncier, c'est-à-dire des terrains disponibles
qui pourraient dévolus à l'agriculture,
voilà, sur lesquels on pourrait installer des agriculteurs, des maraîchers. Alors c'est ce qui se fait par exemple autour de Montpellier.
Oui, mais ils ne peuvent le permettre, ça.
Ça le permet, mais ça dégage des surfaces qui sont quand même petites par rapport à la demande d'une grosse métropole en termes de produits agricoles. Mais c'est déjà
ça. La demande de foncier pour construire les habitants pour les nouveaux venus.
Oui, oui, c'est ça. Il y a plein de concurrence dans les usages du sol, bien sûr. Et donc, c'est bien là où il faut souligner toujours qu'il y a un enjeu à reterritorialiser l'alimentation, mais il y a aussi un enjeu à construire des solidarités avec des territoires éloignés, parce que le territoire d'une métropole ou d'une ville, quelle qu'elle soit, n'est jamais assez grand pour pouvoir produire assez pour alimenter toute la ville. Donc, il faut, comme par exemple ce qu'ils ont fait à Rennes, très intéressant, ils ont fait des contrats entre la ville de Rennes et des agriculteurs qui sont autour des zones de captage d'eau de la ville de Rennes. Ils ont converti ces agriculteurs à l'agriculture biologique et en échange, on leur a donné des aides, et en échange, ils achètent pour les cantines scolaires, puisque les municipalités ont cette compétence des cantines scolaires, les produits de l'agriculture biologique pour les enfants. Donc là, c'est un jeu gagnant-gagnant.
Une filière, parce qu'il y a la question.
C'est plus un contrat entre territoires éloignés. Voilà, et c'est vraiment intéressant, parce que là, c'est aussi ce que des villes inventives peuvent imaginer. Mais voilà. Alors, les cantines et le foncier, des solidarités, enfin, des contrats comme ça avec c'est un peu ce qui se fait autour de ces questions alimentaires, oui. Ça peut être très intéressant.
Alors, il y a un exemple local, on l'avait évoqué en préparant l'émission, sur lequel vous n'étiez pas penché, mais il faut quand même, je pense, en dire un mot. Il y a un projet de cité alimentaire porté par la ville et la métropole de Montpellier, donc avec un volet cuisine centrale pour les restaurants scolaires, et un autre volet, titre général, générique, sensibilisation à une alimentation saine et aux enjeux écologiques. Alors, d'après ce qu'on peut savoir à ce jour, est-ce que ça vous semble aller dans la bonne direction?
Alors oui, c'est très intéressant. C'est d'ailleurs, il y a beaucoup de collègues chercheurs qui sont très impliqués dans l'accompagnement de la ville de Montpellier pour mettre en place toutes ces choses-là. On a un gros pôle agronomique spécialiste de ces questions alimentaires à Montpellier, et ils accompagnent activement la ville.
D'accord.
Mais peut-être un autre exemple d'innovation qui est très intéressante, qui est aussi en partie soutenue par la ville, c'est la Caisse alimentaire commune de Montpellier. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est une forme de mise en expérience, de préfiguration d'un grand projet qui s'appelle la sécurité sociale de l'alimentation. Et la sécurité sociale de l'alimentation, c'est l'idée de mettre en pratique ce qu'on appelle le droit à l'alimentation, c'est-à-dire
d'autres droits.
Notamment le droit de se soigner sécurité sociale.
Voilà,
c'était une façon de donner à tout le monde le droit d'être soigné et donc de conventionner des médicaments. Et là, l'idée de ce projet politique, vraiment au niveau national, c'est de se dire on va changer complètement les instruments de politique agricole et alimentaire et en faire une sécurité sociale de l'alimentation, c'est-à-dire faire en sorte que les citoyens décident entre eux. Et donc là, ils essayent, à Montpellier, ils ont mis en place cette expérience qui est très intéressante, où des citoyens sont ensemble, décident ensemble quel type de produits ils veulent manger. Et donc, ils les conventionnent, ils conventionnent des magasins.
Voilà, il y en a un projet de 4 ou 5. Là,
c'est des magasins qui existent, mais où, par exemple, les citoyens vont les voir et disent « Bon, comment vous traitez vos salariés? Est-ce que vous les traitez bien? Si vous nous prouvez que vous les traitez bien, est-ce que vous avez des bons produits dans vos rayons, etc. ?» Et puis, on leur donne chaque mois 150 monas, c'est la monnaie alimentaire de Montpellier, et pour qu'ils dépensent cet argent dans les commerces conventionnels. Et cet argent, il leur est donné de façon forfaitaire et chacun cotise selon ses moyens. Ça va entre 10 euros par mois pour les plus pauvres jusqu'aux 200 euros par mois D'accord. pour les plus riches, pour avoir 150 euros
Alors,
par mois.
L'occasion d'en reparler, de consacrer une émission.
Alors,
dernière question, elle veut fouiller, mais on a que peu de temps, on l'avait évoqué. Quel est, sur le secteur que vous suivez, que vous avez décrit là, pour le bénéfice des auditeurs et auditrices, quelle est l'idée reçue, l'idée fausse que vous rencontrez souvent, qui vous exaspère peut-être et que vous efforcez de combattre
hein, Alors, l'idée reçue la plus répandue, c'est que pour nourrir, il faut produire plus. Toujours plus. Alors que si on regarde la situation française, on produit toujours plus de quoi ? D'alimentation animale. Ce qu'on produit le plus, c'est de l'orge, du sucre. Enfin, c'est de l'alimentation animale, de l'orge, des céréales, du sucre pour exporter et du vin et des spiritueux. Et ces productions-là, on les exporte massivement. Elle contribue à la balance commerciale, ouais. Mais en réalité, quand on regarde, c'est aussi les productions qui utilisent le plus de pesticides, qui mettent le plus en péril la population française. Et donc, il faut sortir de l'idée qu'il faut produire plus, qu'on produit déjà beaucoup trop par rapport à ce que les êtres humains consomment, et on exporte massivement. Et donc nous faire peur avec la faim en France, puisque c'est notamment la stratégie de M. Duplomb, ça me paraît être problématique. Et ça se base sur
donc,
cette idée-là que pour n'avoir
plus,
pas faim, il faut produire plus.
Voilà.
Alors que non, dans le monde, les gens qui ont faim, ils ont faim pourquoi ? Parce que soit ils n'ont pas assez d'argent pour acheter l'alimentation qui est présente, soit ils sont dans des zones de guerre et de conflit. Donc... Ouais. Produire plus ne permet pas de ne plus avoir faim.
Non pas produire plus, mais produire mieux.
Produire mieux, absolument.
Très bien, merci beaucoup Eve Fouille.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché ?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sarov.
Donc vous êtes une Montpelliéraine, une pure jus.
Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Dudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.